CFM Lacaune, le mag.
Et le mag aujourd'hui se passe en direct de Castanet-le-Haut, une commune héraultaise de la communauté de communes Mont de la Côte, montagne du Haut-Languedoc. Alors je suis accompagnée par Max Aliès, qui est maire de Castanet-le-Haut et aussi président du syndicat forestier privé de l'Hérault. Bonjour monsieur Aliès, merci Bonjour. D'être avec nous. Bonjour. Et alors je me tourne parce qu'on a aussi notre invité avec nous aujourd'hui, c'est Élise Bûcher du CNPF. Alors c'est le Centre National des Propriétaires d'Occitanie, enfin, et c'est la partie Occitanie que vous venez représenter aujourd'hui au micro de CFM Lacaune. Ça c'était pour planter le décor, on va parler de la forêt, vous l'aurez compris. Mais avant peut-être, est-ce que vous pouvez en quelques mots monsieur Aliès nous présenter la commune de Castanet? Une belle commune qu'on ne connaît pas forcément, suivant où c'est qu'on se trouve sur la communauté.
Alors la commune de Castanet-le-Haut est une commune de l'Hérault, comme vous l'avez indiqué, qui est, j'allais dire, située en limite des départements de l'Aveyron et du Tarn. C'est une commune qui est sous deux influences climatiques, influence méditerranéenne pour son versant méditerranéen et influence océanique pour son versant océanique. C'est une vraiment une commune avec beaucoup de diversité de ce fait. Une commune rurale, bien sûr, de montagne, située dans le parc régional du Haut-Languedoc, qui a une altitude qui varie entre 400 mètres et plus de 1100 mètres d'altitude.
Ça, c'est en haut de l'Espinouse, c'est
voilà,
ça?
Avec le sommet de l'Espinouse. Une commune où on retrouve une partie de vallée très montagneuse. C'est situé sur le versant nord du massif de l'Espinouse, en fait, donc avec tout un tas d'étages de végétation. On part du chêne vert et on finit avec les hauts plateaux, avec des conifères et des étendues de bruyère.
Donc du coup, on peut dire que vous êtes un connaisseur de la forêt, puisque en tant que maire, vous avez des forêts à gérer, et après, en tant que particulier, vous avez aussi des forêts propres à vous.
Ouais, c'est effectivement, la commune de Castanet est une commune très forestière, avec une forêt communale gérée de plus de 700 hectares, une propriété communale qui va bien au-delà, puisqu'on a pratiquement 1400 hectares de propriété communale, mais qui sont pas sous gestion, puisqu'il y a des endroits où il y a beaucoup de rochers, beaucoup de terrains qui ne sont pas forestiers. Et puis, on a aussi, sur la commune, un groupement forestier, dont je suis un des gérants, puisque nous sommes deux, un groupement forestier de plus de 300 hectares, donc qui est une gestion privée. Et puis, on a quelques propriétés forestières aussi sur la commune.
D'accord, donc comme ça nous permet de situer. Si on parle de forêt, qu'est-ce que ça représente? On en a parlé pour la commune de Castanet-le-Haut. Est-ce que vous avez une idée pour peut-être la communauté de communes ou plus largement, puisque vous êtes aussi un élu de la région, qu'est-ce que représente la forêt en termes peut-être régional? C'est peut-être les chiffres que vous connaîtrez le mieux.
Oui, l'Occitanie, c'est la deuxième région forestière de France. Pour en revenir à, donc, qui représente quand même un secteur économique très important, plus de 20 000 emplois sur l'Occitanie au niveau forestier. Et pour revenir sur notre territoire communautaire, la communauté de communes de Mont-de-la-Côte, montagne de Languedoc, est une communauté de communes où justement la forêt est un des atouts majeurs de cette communauté de communes. Je ne vais pas parler des autres puisqu'on est là aujourd'hui pour parler de forêt, mais ça représente en termes économiques sur notre territoire communautaire un atout très important. On a la chance d'avoir des forêts qui ont été créées dans les années 70 et qui sont aujourd'hui en exploitation, donc qui créent quand même beaucoup de ressources et d'économies sur notre territoire.
Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la forêt qui touche finalement plusieurs domaines qui nous touchent hein, réellement, l'économie avec la filière bois, l'aménagement du territoire, les changements climatiques aussi et la transition écologique. Alors je vais me tourner plus particulièrement vers Élise Bûcher du CNPF, donc le Centre National des Propriétaires de Forêts hein, d'Occitanie. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de gestion de forêt?
Alors, en fait, nous, on est un établissement public. Donc, c'est le Centre National de la Propriété Forestière. Donc, il y a des délégations dans chaque région. Et on est un établissement public qui vient accompagner les propriétaires forestiers dans leur réflexion pour gérer leur forêt, justement. Donc, on fait du développement forestier, on les informe, on leur donne, on va dire, les clés pour pouvoir s'occuper de leur forêt. Donc, la gestion forestière, elle est multiple, comme vous l'avez dit. Donc, ça peut être les champignons. Mais, Monsieur Aliès le disait à l'instant, il y a aussi de la production de bois. Il y a aussi un côté paysager. En fait, c'est tout un mélange subtil que les propriétaires forestiers doivent prendre en compte pour pouvoir mettre en œuvre la gestion sur leur forêt. Alors, vous le disiez... Pour moi, la forêt, c'est je me promène, c'est un paysage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en Occitanie, mais que ce soit à l'échelle nationale, 3/4 en fait de la forêt française appartient à des propriétaires forestiers privés. Donc en fait, il y a une partie qui appartient, c'est les forêts domaniales, les forêts de l'État. Ensuite, on en a parlé, c'est les forêts communales ou des collectivités au sens plus large, puisque des départements peuvent aussi avoir, par exemple, des forêts. Et puis le reste, donc ça représente quand même 3/4 des surfaces, appartiennent à des propriétaires forestiers. Alors avec la grande particularité qui est propre à nos départements, mais pas que, c'est une forêt qui est très morcelée, qui est issue historiquement de tout un tas de... Un passé agricole pour partie, d'autres parties sur vraiment un passé forestier. Donc ce qui fait que globalement, la moyenne possédée par un propriétaire forestier est autour de 2 hectares, entre 2 et 4 hectares, selon les départements, selon les situations.
Donc ça représente pas forcément 2-3 hectares, c'est pas non plus gigantesque. Quoi.
Ce ne sont pas des grandes forêts, d'où ce qu'on appelle nous le morcellement forestier et d'où la complexité de mettre en œuvre de la gestion. Et l'existence de ce fait de notre établissement public pour accompagner ses propriétaires dans leurs réflexions, et qui peut être aussi des réflexions de regroupement. Max Aliès en a parlé, il s'est regroupé au sein d'un groupement forestier pour pouvoir mettre en œuvre cette gestion.
Puisqu'en fait, quand on parle de gestion de forêt, on peut soit laisser peut-être libre sa forêt, ne pas s'en occuper, ça peut être un choix, soit sinon on peut décider de la gérer, de l'exploiter, de la faire vivre, c'est ça qu'on entend derrière ?
Oui, derrière le mot gestion, en fait, il y a tout un tas de choses. La gestion, c'est aussi décider d'un certain secteur, effectivement, de ne pas intervenir. Mais sinon, c'est, on va dire, planifier. Au même titre qu'on a un agenda pour planifier ses rendez-vous, là, c'est planifier les rendez-vous de sa forêt. Et donc, planifier les divers travaux et coupes forestières qui seront nécessaires pour la gestion forestière.
Alors, je vais me tourner vers Monsieur Aliès, puisque vous faites partie d'un groupement forestier, donc c'est-à-dire que vous avez cette réflexion sur la gestion d'une forêt. Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez clairement ? C'est des sujets très complexes, hein, il faut le rappeler.
Je pense que Élise l'a bien expliqué. Et merci de faire ces émissions, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que le public, les utilisateurs de l'espace, j'allais dire naturel, ont une méconnaissance totale de l'espace forestier, même de l'espace naturel, de l'espace, bon voilà. Donc c'est très important d'expliquer ce qui se passe. D'abord, Élise l'a indiqué, une forêt, quand on a un terrain, si on le laisse à l'état d'abandon, il y a des arbres qui vont pousser, bien sûr, ça va devenir un état boisé, c'est-à-dire naturel. Mais aujourd'hui, les forêts sont gérées et il faut les accompagner. Il faut accompagner la forêt. Donc on tombe aujourd'hui, on a aujourd'hui quelques personnes qui s'imaginent que la forêt c'est naturel, on n'a pas besoin d'intervenir, les arbres poussent, bon, etc. Tout ça c'est vraiment méconnaître le système forestier. Le système forestier, et c'est pour ça qu'il y a des établissements publics comme le CNPF qui accompagnent les propriétaires pour les conseiller sur la gestion de la forêt. Une forêt, ça, on l'accompagne. Pour en revenir au groupement forestier, aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs de l'espace. Ils arrivent dans des forêts de conifères, de hêtres ou autres. Ce qu'ils ne savent pas toujours, c'est que ces forêts, comme ça a été dit, appartiennent toujours à quelqu'un, qu'il soit un propriétaire privé, qu'il soit un propriétaire public, qu'il soit etc. Elle appartient toujours à quelqu'un. Et qu'à un moment donné, ces forêts, il y a eu une intervention humaine soit pour les boiser, pour planter des arbres. Élise l'a également dit, il y a eu des périodes où en France, on a dans les années 60, avec l'aide du Fonds forestier national ou avec les Restauration de terrains de montagne, les RTM, on a aidé les propriétaires qui souhaitaient mettre en commun, et c'est là qu'on a créé des groupements forestiers, mettre en commun leur territoire pour y faire une gestion de peuplement. On les a aidés, à faire de la desserte forestière, on les a aidés à faire du reboisement, et on a un peu notre déception, c'est que le législateur a considéré que ces structures-là, c'était des sociétés civiles. En fait, c'est des sociétés civiles qui se géraient un peu comme une société civile immobilière. Et ça, ça pose un problème parce que autant c'est intéressant pour des groupements forestiers entre guillemets dits familiaux que nous avons surtout dans les départements du Tarn ou de Lozère ou autres où on a des forêts très productives qui sont gérées. Groupement forestier familial, ça veut dire que c'est facile de se réunir, de se mettre autour d'une table et décider. Mais beaucoup de groupements forestiers dans le sud sont des groupements forestiers, comme l'expliquait Lise, de petits porteurs, c'est-à-dire que c'est des petites surfaces qui ont été mises en commun pour une gestion forestière pendant 99 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les propriétaires sont propriétaires de parts, mais pas de propriétaire de sol. Donc c'est une gestion collective au travers d'une SCI. Et malheureusement, dans ces groupements forestiers, il y a très peu de production, c'est-à-dire très peu de ressources. Et donc, quelquefois, c'est difficile à gérer. Et ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des impôts fonciers à payer, il y a des assurances à payer, il y a quand même des frais qui sont supportés par ces actionnaires de groupements forestiers, et quelquefois les revenus forestiers ne suffisent pas pour payer ces charges. Voilà. Donc certains groupements forestiers fonctionnent bien parce qu'il y a des ressources. Quand on dit ressources, c'est des ventes de bois. Hein. C'est surtout ça. Ventes de bois, bon, mais sûr, il peut y avoir d'autres ressources avec des produits style éolienne, carrière ou autres, qui sont des ressources, de concession. Hein, qui peuvent être des formes de revenus, mais les revenus forestiers, c'est les ventes de bois. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut intégrer, c'est que dans un groupe, dans une forêt gérée, non seulement des fois on fait des coupes de bois pour des raisons de quand un arbre il est mûr, hein, parce qu'un arbre
il arrive à maturité, c'est-à-dire voilà. Il est bon à vendre, voilà. Il fera des bonnes planches.
La différence qu'il y a entre un arbre et une salade, c'est qu'une salade on la récolte, on la plante au printemps, on la récolte, bon voilà. Mais les arbres quand ils ont une maturité, c'est-à-dire quand ils viennent, quand ils sont comme mûrs, c'est-à-dire quand ils sont en âge où on doit les récolter, il faut les récolter. Il faut les récolter parce que c'est important pour la gestion de cette forêt. Et quand on a fini de récolter, soit on a derrière ces récoltes une régénération naturelle, soit on a de la régénération artificielle. On se retrouve aujourd'hui dans nos secteurs. Malheureusement, on ne parle que du quart nord-est, mais on a été obligé, dans certaines parcelles forestières de nos secteurs, de faire des coupes rases. Parce qu'on avait du dépérissement sur certains peuplements. Et le forestier, quand il fait une coupe rase, derrière cette coupe rase, il a une obligation de reboisement. C'est-à-dire qu'il est obligé de recréer une forêt. Et ça, c'est un coût quand même important.
Alors, juste, voilà. Monsieur Aliès, je vous coupe. C'est peut-être ça aussi que le public ne comprend pas bien. C'est qu'il y a beaucoup de forêts actuellement qui sont à maturité, notamment dû aux politiques des années 60-70, si vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Donc il y a ces coupes rases. Est-ce que derrière, il y a une réflexion pour pas forcément replanter les mêmes essences, pour avoir des essences qui vont peut-être aussi s'adapter au changement climatique, parce que le changement climatique, c'est pas qu'ailleurs, ça peut être aussi sur le territoire. Je me tourne vers Élise.
Alors, déjà, il n'y a pas des coupes rases partout. Souvent, on a l'impression que la coupe rase, c'est quelque chose d'horrible et qui ne doit pas être réalisé. Dans un cycle de gestion forestière, ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle, la gestion régulière. C'est-à-dire que les arbres vont pousser tous en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont être tous petits en même temps. Ils vont être, si on veut faire une comparaison, ils vont être adolescents en même temps et ils vont être à l'âge de maturité pour la filière aval, en fait, hein, pour avoir des charpentes, des meubles, parce que sinon, la forêt pourrait vieillir encore plus. Mais pour que voilà, pour qu'il y ait une utilisation filière aval, il y a un âge de maturité pour pouvoir alimenter cette filière qui nous sert après au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de gestion régulière, où on va couper après tous les arbres en même temps. Et puis, c'est expliqué précédemment, où on replante, où c'est de la régénération naturelle. C'est-à-dire, on fait le choix de replanter avec des essences différentes, ou les mêmes essences, qui vont être là pour produire du bois dans le futur, et donc pour les générations à venir, pour alimenter la filière, et pour que les générations à venir puissent faire aussi des charpentes, etc., puissent en profiter, ou de la régénération naturelle. Mais il n'y a pas que ces cycles-là, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion en futaie irrégulière, où là, l'objectif va être d'avoir toutes les classes d'âge, c'est-à-dire d'avoir des enfants, des adolescents, si je reprends l'analogie, et puis des adultes, voire des grands-parents, qui vont, eux, mourir en forêt, et de venir faire des récoltes plus régulières, ce qui fait qu'il y aura un couvert forestier permanent. Donc ça, voilà, c'est aussi ces deux types de gestion qui ne s'opposent pas, qui se complètent sur le territoire et qui sont pratiquées sur le territoire. Après, la question, c'était sur les changements climatiques. Donc ça, c'est les forestiers sont aux avant-gardes, on va dire, aux avant-postes. Enfin, en tout cas, on le voit pour différentes essences. On est à Castanet, on a entre autres le châtaignier qui est présent tout autour, qu'on voit tout autour de nous. C'est une essence qui a été introduite pour l'agriculture. On parlait de l'agriculture, qui a été ensuite abandonnée d'un point de vue agricole et qui est devenue de la forêt. Sauf que le châtaignier, bah, par exemple, il n'est pas à sa place. Parce que si l'homme ne l'y avait pas mis, il ne s'y serait pas mis tout seul.
D'accord. Voilà.
Donc c'est pour ça que dans le paysage, on voit des branches mortes et pas partout, évidemment. Mais sur certains secteurs, il est pas bien. Donc c'est là où il faut avoir une réflexion, d'avoir des essences forestières qui sont adaptées au sol, au climat d'aujourd'hui, mais au climat futur. Donc on est obligé de se projeter. Et nous, on parle de la notion de station forestière. Donc ça induit le climat, enfin tout ce qu'il y a, tous les ingrédients qui sont nécessaires à l'arbre pour se développer tout au long de sa vie. Et un forestier ne réfléchit pas à l'année, comme pour des salades par exemple, mais le forestier, il réfléchit à des échéances de 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, parce que en fait, la forêt va durer bien après le propriétaire. Et par contre, il y aura des rendez-vous à prendre, ce que je parlais d'agenda, des rendez-vous à prendre pour faire ce qu'on appelle une éclaircie. C'est-à-dire couper des bois parce que les arbres se gênent entre eux pour que les autres puissent continuer à grossir. Voilà, c'est tout ce pas de temps qui doit être pris en compte. Et donc, effectivement, le CNPF, mais d'autres aussi, en lien avec les chercheurs et avec différents organismes forestiers, on a développé aussi certains outils pour se projeter dans le futur et choisir des essences forestières qui seraient plus adaptées demain. Après, alors, une des grandes règles de base, je finis juste par ça,
bien sûr.
C'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et plus on va avoir une diversité d'essences, plus on a une chance que l'adaptation dans le futur, dans le climat qu'on nous projette, mais on n'est pas sûr et certain à 100% de ce que ça va donner partout localement, on sait qu'on aura des essences qui vont s'en sortir et d'autres un petit peu moins bien. Donc plus on aura un choix d'essence important, moins on aura de risques sanitaires.
Alors malheureusement, je suis obligée de vous arrêter. On n'a pas beaucoup parlé, on a encore beaucoup de sujets à aborder. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour une autre émission sur les ondes de CFM Lacaune, toujours avec Monsieur Aliès, hein, maire de Castanello et aussi président du syndicat forestier privé de l'Hérault, et puis avec Élise Bûcher du Centre national des propriétaires forestiers.